Le meurtrier par amour filial. C'était un soir, à l'heure où le soleil s'abaisse derrière la montagne et où la nuit étoilée remplace une journée brûlante. Les pasteurs revenaient à la hâte, les épaules chargées de cordes, et comptaient leurs troupeaux. Les paons engourdis relevaient la tête, agitant leur plumage semblable à une gerbe d'émeraude. Au milieu des étangs, les nymphéas rouges et blancs entr'ouvraient leurs calices fermés durant le jour. Aussi beau que l'amour, ce compagnon du printemps, un voyageur suivait à pas lents la route qui conduisait à Mytilla. Ses membres robustes paraissaient épuisés de fatigue et des gouttes de sueur perlaient sur le léger duvet de sa joue. Il s'assit, ou plutôt se laissa tomber sous la véranda d'un petit temple bâti aux portes de la ville. Une vieille anachorète se montra sur le champ. « Ah, bonne mère !» dit le jeune homme, « un peu d'eau, par pitié !» Tandis qu'il buvait, la pieuse femme le considérait attentivement. Certes, elle n'était plus accessible aux enthousiasmes exagérés de son sexe, et la beauté du voyageur n'entrait pour rien dans l'émotion qu'elle ne cherchait point à déguiser. C'était une ombre, un fantôme de femme, les vêtements religieux flottaient autour de son corps comme la voile qui s'abat sur un mât quand la brise cesse de souffler. Ses cheveux, rattachés sous un bandeau de mousseline noire à la manière des veuves, s'échappaient rudes et grisonnants, ainsi que des cordes blanchies sous la rosée. On eût dit qu'à force d'avoir pleuré, il ne lui était resté dans les yeux, à la place des prunelles, que deux gouttes de sang, et ses lèvres pâles semblaient desséchées par le feu des soupirs. « Noble étranger, dit-elle, vous paraissez étonné de voir une créature aussi misérable que moi, et vous vous demandez sans doute si ce sont les austérités ou les chagrins qui m'ont réduite à cet état. Apprenez que je vivais à la cour de celui qui fut jadis le roi de Mytilla. J'avais l'honneur d'être la nourrice de son fils Upahara, le plus bel enfant qu'ait jamais mis au monde une mortelle. Nous étions tous heureux lorsque le roi du Malava s'avisa de déclarer la guerre à son voisin du Mytilla. Vous connaissez le dicton populaire, les mouches cherchent les ulcères, les méchants cherchent les querelles, les rois cherchent la guerre. » Ces tyrans capricieux, plongés dans les voluptés du harem, ne retrouvent un peu d'énergie que pour guerroyer les uns contre les autres et s'arracher un lambeau de territoire. Que de fois déjà les discordes ont ensanglanté nos contrées fertiles. Mais jamais guerre n'eut de résultats plus funestes que celle dont je vous parle. L'armée mise en déroute, les trésors de l'État pillés, mes augustes maîtres traînés, les fers aux pieds, à la suite du vainqueur, et jetés dans une prison où ils languissent encore. Moi, fuyant éperdu à travers les forêts, le royal nourrisson suspendu à mon sein, et poursuivi tantôt par les tigres affamés, tantôt par les sauvages habitants de la montagne. Deux jours, je marchais à l'aventure. Une panthère sortie d'un taillis me barra tout à coup le chemin. Elle se jeta sur moi. Au contact de sa griffe, je m'évanouis. L'enfant s'échappe à mes bras et roule à terre. Quand je revins à moi, j'étais couché dans la hutte d'un berger. La flèche d'un biya avait abattu la bête féroce et m'avait sauvé la vie. La vie, quelle dérision! Qu'en avais-je besoin désormais? Le dépôt si cher que j'aurais dû garder jusqu'à la mort m'était enlevé. Les femmes des biyas avaient emporté l'enfant dans la montagne. Qu'est-il devenu? L'a-t-on laissé vivre et grandir comme la plante soma à l'ombre des bois? Il aurait ton âge, mon fils, et si les prières, les mortifications, les larmes d'une pauvre ascète pouvaient lui mériter les faveurs du destin, il serait aujourd'hui le plus puissant des hommes. Embrasse-le donc bien vite, ma mère, car il est devant toi, ce nourrisson templeré. « Mon cœur me l'avait déjà dit !» s'écria la religieuse en serrant le jeune homme contre sa poitrine et le baisant sur la tête et les cheveux comme autrefois, riant, pleurant, poussant mille exclamations joyeuses et folles. Lorsque ses premiers transports furent un peu calmés, le prince reprit « En effet, on ne t'avait pas trompé. Je fus pris par les billas, mais un ermite qui habitait sur la montagne se chargea de m'élever et de m'instruire. » Depuis longtemps, je connais la triste histoire de ma famille et je suis venu ici conduit par la vengeance. C'est écrit sur mon front, je délivrerai mon père et ma mère, j'écraserai le monstre qui opprime ce royaume. Personne ne soupçonne mon existence, j'userai de ruse, je travaillerai seul dans le silence. Ah, mon fils, la faveur de Bhagava t'ouvre ses trésors. C'est ton étoile qui t'a conduit. Depuis longtemps, le peuple irrité, écrasé d'impôts, le peuple qui n'a cessé de regretter son souverain légitime, est prêt à se révolter, et grâce à toi, nous achèverons de traverser cet océan de chagrin que je croyais, hélas, sans rivage. En attendant, mon fils, demeure ici dans ce temple, où nul ne s'avisera de venir te chercher. » Le prince accepta la modeste hospitalité qu'on lui offrait, et après un frugal repas, il se coucha dans un coin du temple sur un lit de feuilles. Il ne dormit guère et réfléchit beaucoup. Le lendemain, sitôt qu'il eut satisfait aux devoirs religieux du matin, il s'approcha de sa nourrice. « Mère, j'ai absolument besoin de savoir ce qui se passe dans le gynécée du cruel Vikatamavarma. Pour parvenir à mes fins, il faut avant tout m'assurer un appui dans le sérail. Que les dieux soient loués, l'humble ascète a justement les moyens de te servir. Ma fille, ta sœur de lait, est au service de la reine Sundari. » Pushparika, ajouta la religieuse en se tournant vers une jeune femme qui se tenait à l'écart, viens baiser les pieds de notre maître et l'assurer de ton zèle. Voilà vraiment une chance favorable. Ma sœur a sans doute, à toute heure, ses entrées dans le sérail et elle en connaît les mystères les plus intimes. Les reines n'ont rien de caché pour leur suivante. Sundari m'honore de sa confiance. Tant mieux. Jalousie, regret, haine, affection, nous utiliserons tout sans scrupule. Dis-moi, la reine est-elle fidèle à son époux ? Gardée à vue, nuit et jour, par les officiers du palais, il lui serait difficile de ne pas l'être. Mais sous les caresses du roi, ma maîtresse reste aussi froide que la neige de l'Himalaya. Le sérail est-il nombreux ? La belle Sundari a-t-elle des rivales ? Elle en a mille, seigneur. Les tyrans sont remplis de caprices voluptueux, et l'autre nuit, au grand scandale des reines, une danseuse, venue on ne sait d'où, a été introduite dans le gynécée. À merveille, et sans cesse l'œil aux aguets, tâche de surprendre de nouvelles infidélités du roi, et empresse-toi de les révéler à la reine. Irrite son orgueil, c'est une corde qui vibre toujours chez les femmes. Représente-lui son mariage comme une mésalliance, et son mari comme un monstre difforme qui l'outrage. « Retourne au palais, tu viendras chaque jour me tenir au courant de ce qui s'y passe. » La nourrice promit de se mêler aussi de la chose. Les religieuses indiennes ne perdaient jamais une occasion de s'occuper des affaires d'autrui. Quelques jours après, la pieuse femme revint enchantée. « Tout marche à souhait. J'ai parlé moi-même à la reine. Je lui ai persuadé qu'elle était la plus infortunée des créatures, tandis qu'il y avait de par le monde une foule de princesses qui ne la valaient pas, unies à des princes jeunes et charmants. Maintenant, elle maudit le joug qui l'enchaîne et déteste son époux. Reçois mes compliments. Pour une ascète vieillie dans la pénitence, tu ne t'entends pas mal à l'intrigue. De mon côté, je n'ai pas perdu de temps. Avec du bétel, de la noix d'arec, du camphre pilé, du cardamone et du bois de corail, j'ai fait mon portrait que je crois ressemblant. Aujourd'hui même, tu présenteras cette peinture à la reine et tu verras ce qu'elle en dira. Ce n'est pas difficile à deviner. L'amour la frappera immédiatement d'une de ses flèches de fleurs. Eh bien, alors, sans doute, elle te demandera « Un tel homme existe-t-il ? » « Certainement, répliqueras-tu. Mais en quoi cela peut-il intéresser votre majesté ? Ne manque pas de venir me rapporter la réponse faite à cette question insidieuse. » De là dépend le succès de notre entreprise. Le soir même, la religieuse accourait au temple. « Ah, mon fils, tout marche au gré de nos désirs. Qu'il faut peu de choses pour bouleverser la cervelle d'une femme qui s'ennuie. Cette reine si hautaine, je l'ai vue se troubler, frissonner et pâlir. La tête penchée, elle tenait ton portrait en le considérant d'un air passionné. Puis, s'efforçant de paraître calme, « Qui donc a fait ce portrait ? Je ne connais aucun artiste dans cette ville capable d'exécuter une telle œuvre. Votre Majesté sait apprécier le talent, mais ce portrait a surtout le mérite de la ressemblance. Quoi ? Ce n'est pas une figure de fantaisie ? Cette tête merveilleuse appartient à un mortel ? Réponds vite ! Grande reine, s'il existait un jeune homme de noble famille, doué de pareille beauté, versé dans les sciences sacrées et profanes, et du caractère le plus élevé, que lui donnerait-on ? Ce qu'on lui donnerait, mais sa personne, son cœur, sa vie, et encore, tout cela serait indigne de lui. Était-ce bien la fière Sundari qui parlait ainsi ? Que les conquêtes de l'amour sont rapides. Il est plus puissant, à lui seul, que les dieux réunis. Le coup était porté, je n'avais qu'à continuer. J'apprendrai en confidence à la reine que le fils d'un roi voyage en ce moment incognito. Votre Majesté est tombée, par hasard, sur le chemin de ses yeux, le jour de la fête du printemps, dans le bocage qui est aux portes de la ville. Depuis cet instant, le cœur du jeune homme est devenu une cible, percée de 1000 flèches échappées de vos regards, et c'est lui qui, de sa propre main, a peint ce portrait pour l'offrir à la reine. Si votre Majesté tient à se convaincre que je n'ai rien exagéré, qu'elle fixe un rendez-vous pour aujourd'hui, pour demain, pour le jour qui lui plaira, et elle verra celui dont je suis l'humble messagère. » Sundari rougit. Elle craignait de s'être trop avancée. La nature féminine reprenait le dessus. « Au moins, tu es sûre qu'il m'aime ? Le voir aujourd'hui serait bien prompt. Demain, peut-être. Sais-tu, vénérable, que je fus jadis fiancée au fils du roi de Mithila ? Nos mères étaient liées d'une tendre amitié. Une guerre funeste vint détruire ses projets d'union. Le prince Upahara fut enlevé, dit-on, des bras de sa nourrice et assassiné dans la montagne. J'épousai le roi Vikatavarma, cet homme odieux chez lequel aucune qualité morale ne rachète les disgrâces physiques. Il se targue de sa bravoure, c'est un soudard vaniteux et méchant, peu habile à l'étude et maladroit, je t'assure, dans l'art de plaire. Ces jours derniers, il m'a gravement offensé. Devant ta fille Pushparika, il n'a pas craint de badiner avec une danseuse, plaçant lui-même des fleurs dans la chevelure de cette folle qui ose être jalouse de moi et se croit l'égale d'une reine parce qu'elle a passé une nuit dans le sérail. Vivre avec un époux qu'on méprise et qu'on déteste, c'est intolérable. Décidément, je consens à voir demain ce jeune homme à la tombée de la nuit sous le berceau d'Asoka qui est au centre du jardin des femmes. » Voilà, mon fils, ce que j'avais hâte de t'apprendre. Ai-je eu tort d'assurer à la reine que tu étais amoureux d'elle ? En la voyant, tu ne regretteras pas l'aventure. Non, assurément, ce n'est pas à 20 ans, lorsque la jeunesse vous entraîne, qu'on fuirait devant la belle Sundari. Si c'est une mauvaise action de séduire la femme d'autrui, ici, le but justifie les moyens. Je veux briser les chaînes de mon père. « Dis-moi ce qu'il faut faire pour m'introduire dans le gynécée. » Là-dessus, la bonne nourrice ne tarit pas. Elle entre dans les détails les plus minutieux, expliquant au prince à quelle place se tenaient les officiers chargés de la surveillance des bocages et comment ils devaient s'y prendre pour les éviter. Pour pénétrer dans l'enceinte des jardins, il lui faudrait traverser un fossé à l'aide d'une tige de bambou, escalader un mur et se diriger à travers un labyrinthe jusqu'au carrefour des 7 allées où s'élevait le berceau d'Asoka. Upahara attendit la fin du jour suivant avec impatience. Bien des fois, les récits de la religieuse se présentèrent à son imagination. Déjà, il pensait moins à ce pauvre roi qui languissait en prison qu'à cette reine impressionnable à laquelle une union disproportionnée avait fait deviner, sans les lui faire goûter, les douceurs d'un amour partagé. À l'heure dite, le prince était devant le fossé qui entourait la demeure royale. Une tige de bambou, apportée d'avance par la suivante Pushparika, servit au jeune homme pour traverser, dans les ténèbres, les eaux profondes. Il passa vivement sur ce pont mobile. Aussi leste qu'un léopard, il sauta sur le grand portail. Une échelle, oubliée à dessein par un jardinier, lui servit à descendre commodément. Il était au cœur de la forteresse. Un instant, il s'arrêta. Un cri plaintif se faisait entendre. Ce n'était qu'un couple de ramiers qui se faisait de tendres aveux sur le bord d'un étang. Suivant les conseils de la religieuse, Upahara, dirigeant ses pas vers le nord, s'avança entre deux rangées de champakas, si élevé et si touffu qu'on eût dit une rue bordée de hautes maisons dont il était possible de toucher les deux côtés en étendant les bras. Puis, tournant brusquement à gauche, il s'enfonça dans une allée sablée, ombragée de banyans. Sous les rayons de la lune, il vit de loin briller le sabre recourbé d'un chambellan qui prenait le frais. Vite, il se jeta dans une interminable avenue de manguiers qui bordait un lac. Quel instinct et quelle connaissance des lieux il fallait pour se diriger dans ces bocages pleins de pièges et de mystères. Heureusement, la patience est une des qualités indiennes. Le prince aperçut enfin le berceau d'Asoka, terme de sa course. Des lanternes de couleur l'éclairaient tout alentour. Il écarta doucement les tiges fleuries qui masquaient l'entrée et pénétra dans l'intérieur. La reine n'était pas encore arrivée. Tout était pour le mieux. Quand on a rendez-vous avec une reine, c'est bien le moins qu'on l'attende. Le prince s'assit un instant pour reprendre haleine et regarder autour de lui. On devinait le lieu de prédilection d'une femme élégante. Au fond du berceau, un lit de fleurs fraîches cueillies, des feuilles de lotus servant d'assiette, couvertes de miel et de fruits, sur un coussin de soie brodée, un éventail d'ivoire et une ombrelle de soie blanche, à côté, une aiguière remplie d'eau de senteur, toutes choses exquises qui sont les complices de l'amour. Soudain, Upahara distingua au loin des pas furtifs. Il se cacha derrière le tronc d'un gros asoka qui formait le berceau. Il voulait, invisible, surprendre d'un premier coup d'œil celle qui venait à lui pleine de confiance. Apparemment, elle avait bravé en route bien des dangers, car elle se précipita tout éperdue dans le bosquet et les nourpouras qui entouraient sa jambe résonnèrent joyeusement. Elle ne vit personne et, de ses lèvres, comme d'un luth plaintif, s'échappa un gémissement. « Hélas, dit-elle, on m'a trompée. Mon cœur, pourquoi avez-vous cru à une chose impossible ?» Comment la nourrice pouvait-elle parler avec si peu d'enthousiasme d'une beauté semblable ? Il fallait être bien refroidi par la vieillesse et la pénitence. Quel peintre, quel poète eût été digne de retracer tant de perfections ? La ligne gracieuse des sourcils qui semblait badiner en suivant le chemin des yeux, ces grands yeux dont l'amour avivait encore la flamme, la joue pâle comme la tige d'un roseau, la bouche fleurie qui s'ouvrait pour laisser passage à une haleine aussi pure que la brise du Malaya, et les cheveux, gerbes odorantes qu'une course rapide avait précipitées sur les épaules. Mais surtout, que dire de sa taille mince, de son sein relevé, de sa démarche superbe, un peu apesantie par l'ampleur des hanches. D'un coup d'œil, Upahara embrassa toutes ces merveilles et, sortant de sa cachette, « Ayez pitié de moi, femme charmante » s'écria-t-il, « faites-moi vivre en attachant sur moi, qu'a mordu le serpent de l'amour, ces longs yeux qui peuvent seuls fermer ma blessure. » Prière superflue. Sundari n'éprouvait ni le besoin d'être persuadé, ni l'envie de se défendre. Il faut songer à ce qu'avait été la vie de cette esclave couronnée et pardonner à une imagination développée par l'oisiveté du sérail, à des nerfs sans cesse en éveil sous un climat qui les excitait ou les brisait tour à tour, à un sang généreux où le soleil d'Orient avait allumé des passions redoutables. Rien ne troublait le silence du bosquet. Les espions qui veillaient d'ordinaire semblaient s'être endormis. La nuit prêtait aux deux amants ses complaisances mystérieuses. Le prince se jeta à genoux. Il était bien près de commander en maître. « Ah » murmura-t-il, « avant d'être à ce tyran odieux, tu m'appartenais déjà, Sundari. Nous étions destinés l'un à l'autre. Je suis ton fiancé, le fils du roi de Mithila. » Ce fut le mot de la fin. Le Kokila chanta tout à coup l'hymne matinal. Le prince fit un mouvement d'inquiétude. « Vishnu, ma bien-aimée, nous a protégés cette nuit. Il faut nous séparer. » Mais l'Indienne se révoltait. Comme un enfant mutin, elle se pendait au cou du bel Upahara et, de ses bras parfumés, lui faisait un étroit collier. « Si tu pars, dit-elle d'une voix lente et grave, maître de mon âme, compte que ma vie s'en ira avec toi. Emmène-moi, sinon il n'y a plus de moyen d'exister pour ton esclave. » Cher insensé, nous perdrions tout par une conduite si imprudente. Il faut avoir un peu de patience. Puisque tu m'aimes véritablement, écoute-moi. Nul n'est plus crédule que ton époux. Il croit aux incantations magiques et aux œuvres des sorciers. Montre-lui le portrait que je t'ai envoyé. Persuade-lui que c'est un talisman qui a le don de métamorphoser et que la beauté dont cette image présente le modèle peut échoir à celui qui offrira un sacrifice en observant certains rites que je vais t'indiquer. Dis au roi qu'il devra jeûner le sixième jour de la lune. La nuit venue, une cloche, suspendue aux branches de cet asoka, l'avertira de se rendre dans l'enclos des bocages, au carrefour où se croisent les sept allées. Qu'il vienne seul, sans astrologue ni chambellan, insiste sur ce point. Devant le feu allumé par la main du Purohita et alimenté avec du camphre, du sandal, de l'aloès, du beurre clarifié et une victime égorgée préalablement. Quand la grasse fumée s'élèvera vers le ciel en colonnes épaisses, le moment de la transformation approchera. Une dernière invocation aux éléments et aux divinités propitiatoires et le roi revêtira la forme désirée. Vis-à-vis de ton époux, tu seras censé mettre la cloche en branle et, sous ce berceau, assister invisible à la cérémonie. Mais en réalité, c'est moi qui prendrai ta place dans cette circonstance. Ne m'en demande pas davantage, le reste me regarde. Je compte sur toi, ma belle. Tu sauras, dans le silence du sérail, murmurer à l'oreille de cet imbécile les contes qui doivent l'attirer dans le piège. Cela ne te coûtera guère. Le mensonge, n'est-ce pas le lac aux eaux troublées, au milieu duquel les femmes nagent si volontiers ? En parlant ainsi, l'œil d'Upahara brillait du désir de la vengeance. Sundari devina que les desseins de son amant n'étaient pas d'une bienveillance extrême à l'égard du roi, mais, tout entière à son amour, peu lui importait. Elle s'arracha en soupirant des bras du prince et regagna le palais du roi. En retournant à la chapelle de l'Anachorète, Upahara ne rencontra sur son chemin qu'un lézard vert, excellent présage pour les mariages et les affaires de cœur. Peu de jours après, un bruit étrange se répandit dans les villes et les campagnes. Grâce à la vertu d'un talisman que possédait la reine, le roi, disait-on, allait changer de forme et devenir aussi beau qu'il était laid. Le peuple, les ministres, tout le monde se réjouissait. Au lieu d'un petit monstre, on était flatté d'avoir un bel homme pour souverain. On s'extasiait sur la puissance des mantras et on attendait impatiemment le résultat de l'opération. La ruse, toute grossière qu'elle fût, avait réussi. En ce monde, il ne faut qu'un peu d'audace pour tromper les peuples. On leur a souvent fait accroire des choses moins innocentes que la transformation d'un Vikitavarma. Le sixième jour de la lune, la nourrice vint de la part de Sundari avertir le prince que, cette nuit même, le roi se rendrait sans escorte dans les bosquets du Gynécée. Plus exempt encore au rendez-vous de la vengeance qu'à celui de l'amour, Upahara se blottit sous le berceau bien avant l'heure convenue. Quand il vit le prêtre de la famille s'éloigner, après avoir mis le feu aux piles de bois, le jeune homme agita la cloche qui devait, messagère de la mort, appeler la victime. Elle résonna au milieu des jardins solitaires. Bientôt, Upahara aperçut le nain couronné qui s'avançait de toute la vitesse de ses petites jambes. En approchant du lieu du sacrifice, il ralentit le pas. Au dernier moment, un soupçon semblait s'être emparé de son esprit. Il s'arrêta devant le bûcher qui flambait magnifiquement et regarda autour de lui avec méfiance. Les despotes orientaux vivent dans des transes perpétuelles. « Sundari, es-tu là ? » murmura-t-il d'une voix un peu émue. « Certainement, j'y étais bien avant toi, » répondit-on de dessous le bosquet. Upahara s'efforçait d'imiter la voix de la reine et pensant avoir réussi de façon à produire l'illusion, il reprit avec plus d'assurance « Cher époux, je t'avoue que j'ai réfléchi et que je me repens de mes folles promesses. Cette beauté obtenue grâce à ma bienveillance ne servira qu'à faire le bonheur de mes rivales. Ingrat, tu es inconstant comme l'abeille qui butine en tout lieu, et plus que jamais, tu vas délaisser la triste Sundari. Ne crains rien, séduisante créature, mes transports, au contraire, ne feront qu'augmenter. Pardonne les infidélités que j'ai commises. Désormais, je ne veux regarder d'autres femmes que ma reine, ne fût-ce qu'en pensée. Hâte-toi, je t'en supplie, d'accomplir l'œuvre désirée. Eh bien, j'y consens. Par la vertu du talisman que je tiens dans ma main, les formes charmantes que tu as admirées vont passer en ta personne. Mais, auparavant, tu dois faire une confession à haute voix et décharger ta conscience de tous les secrets qui l'oppressent. Prends garde, pas de restriction. De ton entière franchise dépend le succès de l'opération. Soit, peut-être la chose n'est-elle pas aussi nécessaire que tu le prétends, mais en échange de la beauté que tu vas me donner, je veux bien satisfaire ta curiosité. Mes secrets ne sont pas nombreux et mes projets sont des plus simples. Faire étrangler quelques parents qui me gênent, déclarer, sous un prétexte fallacieux, la guerre à mon voisin, le souverain du Béar, lever un nouvel impôt, dévaliser un riche négociant qui possède le plus beau diamant connu, faire assassiner dans un soulèvement le chef de bourgade Kata Ali, très influent parmi les agriculteurs, mais trop enclin à censurer ma conduite. Ah, j'oubliais, le frère de mon père, le roi de Mithila, que j'ai détrôné. Quand veux-tu faire ? Parbleu, m'en débarrasser. Le pauvre homme s'ennuie depuis tant d'années dans sa prison, il faut en finir. Mes ministres et moi, nous avons décidé qu'on le ferait mourir avec des mets empoisonnés, et pour ne pas mécontenter le peuple, nous répandrons le bruit que sa mort est le résultat d'une indigestion. Es-tu satisfaite ? Oupar a bondi hors du bosquet. « Monstre, dit-il, c'est une action bénie des dieux que de trancher une pareille vie. Va dans un chemin digne de tes œuvres. » Et d'un coup de cimeterre, il perça le corps du misérable. Le bûcher, activé par des flots de beurre clarifié, reçut le cadavre qui fut bientôt méconnaissable. Être brûlé de la sorte, c'était encore avoir les funérailles d'un roi, un peu précipité, il est vrai. Entrant immédiatement dans le personnage du défunt, le prince courut vers le palais. Appuyé contre la vasque d'un jet d'eau qui s'élevait au centre d'un parterre, Sundari attendait, pâle, inquiète. « Tu n'as plus désormais d'autre époux que moi, » lui dit Upahara. La veuve se contenta de cette courte phrase et n'essaya pas de verser des larmes hypocrites. Sur l'escalier d'honneur, les poètes, les panégyristes, les astrologues, les médecins, les chambellans étaient groupés pour saluer leur maître. Le premier médecin osa féliciter sa majesté du changement favorable qui s'était opéré en elle, quoique, se hâta-t-elle d'ajouter, la personne royale fut loin d'être défectueuse auparavant. Restait à prendre possession du sérail. Le roi y entra, tenant par la main sa première épouse. Une lampe, aussi étincelante de pierreries que celle d'Aladin, éclairait faiblement la principale pièce du gynécée. Les œils de bœuf, treillisés d'or, laissaient pénétrer par de larges ouvertures la fraîcheur de la nuit. De jeunes esclaves agitaient les grands éventails suspendus au plafond ou brûlaient des parfums dans des cassolettes d'argent. D'autres allaient et venaient doucement, dans la demi-obscurité, portant des urnes remplies de camphre, d'oussira et de poudre de sandales pour les bains du lendemain. Les tuniques légères en soie de Chine ou les frais corsets tissés avec des filaments de lotus gisaient à terre. Enroulées comme des chattes sous leurs couvertures bariolées, les femmes du sérail dormaient déjà. Le collyre et le fin, détrempés par la moiteur du sommeil, glissaient sur leurs joues, mais elles avaient gardé tout l'attirail de la coquetterie, pendant d'oreilles, colliers, bracelets, ceintures et noupouras. En un instant, la ruche fut sur pied. Ces dames, que la transformation du roi intéressait plus que personne, ouvraient des yeux de gazelles effarées. « Que notre Seigneur est rajeuni et embelli, ma chère !» se disait-elle tout bas. « Nous n'avons pas perdu au change, mais c'est égal, on le retrouve tout de même. » Le défunt distribuait équitablement ses galanteries. Pour l'imiter, Upahara où Pahara fut obligé d'être poli et de trouver un mot aimable à dire à chacune de ces dames. Au fond, il avait hâte de se retrouver seul avec sa bien-aimée Sundari, et ce fut avec elle qu'il passa fort agréablement cette première nuit d'avènement au trône. Le lendemain, c'était jour de conseil. Les ministres arrivèrent avec 1000 génuflexions et 1000 compliments. « Messieurs, fit le roi, mes idées ont changé avec ma personne. Vous savez que je n'avais pas de très bonnes intentions à l'égard de mon oncle, l'ex-souverain de Mithila. Maintenant, je prétends qu'il soit libre, qu'on lui restitue ce royaume qui est le sien et que nous lui obéissions comme à un père. » Les ministres firent la grimace, insinuant qu'en politique, la générosité était d'une habileté contestable. Sans les écouter, le prince reprit. « Je voulais aussi envahir le territoire du Béar. Après mûre réflexion, j'y renonce. L'instant n'est pas favorable. Des soldats massacrés, des récoltes dévastées, des ennemis acharnés, voilà tout ce que j'y gagnerai. Il vaut toujours mieux se laisser déclarer la guerre que de la déclarer soi-même. » Sur ces entrefaites, on vint annoncer au roi que le propriétaire du fameux diamant demandait à lui parler. Le négociant entra tout tremblant. Il s'attendait à être dépouillé et à recevoir la bastonnade en guise de paiement. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque le roi lui dit d'un ton affable « Depuis longtemps, je désirais posséder ton diamant, et comme il ne me convient pas d'acheter une chose si précieuse au-dessous de sa valeur, nous ferons estimer cette pierre par des hommes expérimentés. » Le chef de bourgade Kata Ali, mandé également, fut introduit à son tour. Upahara alla vers lui. « Mon ami, tu m'as toute ta vie fait une opposition opiniâtre, mais les rois sont entourés de tant de flatteurs qu'ils doivent savoir gré à ceux qui ont le courage de leur faire entendre, par hasard, la vérité. Pour te récompenser, je t'offre une place importante dans mon gouvernement. » Cette fois, les ministres en prirent leur parti. Ils se déclarèrent transportés d'admiration. Comme c'est bien lui, notre vertueux, notre incomparable souverain, et comme nous le reconnaissons, à ce dernier trait de générosité. Ses fonctionnaires, pleins d'indépendance, volèrent à la prison délivrer le vieux roi et la reine. La nourrice se chargea de conter à ses anciens maîtres l'histoire qu'on vient de lire. Au lieu du plus cruel ennemi, ils trouvèrent pour les recevoir le fils le plus tendre. Si Upahara avait agi un peu légèrement avec la morale, la fin justifiait les moyens. S'effaçant devant le pouvoir paternel, il se contenta d'être le prince héréditaire, mais il resta l'époux de Sundari. Pour un cœur de 20 ans, l'amour vaut mieux qu'un trône.